Merci d'écouter Radio Prague. Le bulletin d'information vous est présenté par Alexis Rosenzweig. Je propose de laisser les passions, les monologues et les leçons de côté pour laisser place à une discussion calme sur le traité constitutionnel dans laquelle chacun écoutera les autres et où tous les arguments seront entendus et confrontés. Cet extrait est tiré de la lettre adressée par le président social-démocrate de la Chambre des députés, Lubomir Zaoralek, à l'intention du président de la République, Václav Klaus. La semaine dernière, ce dernier avait reproché à Lubomir Zaoralek d'avoir approuvé les critiques formulées à son encontre par des députés européens qui lui reprochaient, entre autres, de nuire à l'image de son pays. Sadaï Nazarov, un opposant azerbaïdjanais exilé en République tchèque et arrêté lors d'une visite de son pays en janvier dernier, a regagné Prague mercredi. La veille, les autorités azerbaïdjanaises avaient empêché son retour, arguant que son passeport de réfugié tchèque n'était pas valable, selon l'agence de presse CTK. Sadaï Nazarov, 58 ans, réfugié depuis 1994 en République tchèque, où il a obtenu l'asile politique 3 ans plus tard, a été arrêté le 20 janvier lorsqu'il est revenu dans son pays pour voir son père malade. Il est un ancien conseiller de l'ex-premier ministre azerbaïdjanais Souret Husseinov. Le ministre tchèque des Affaires étrangères a affirmé lundi que sa libération avait été obtenue après plusieurs semaines d'activités diplomatiques bilatérales et multilatérales intenses. Économie, le ministère tchèque des Finances a ramené à 1,8% sa prévision d'inflation pour 2005, contre 2,8% envisagé précédemment. Dans le même temps, le ministère a revu en hausse sa prévision de croissance du produit intérieur brut, qu'il estime maintenant à 4% cette année, en hausse de 0,2 points par rapport à sa prévision précédente. L'acteur américain Robert Redford sera l'invité d'honneur de la 40e édition du Festival du film de Carlo Vivari, qui se déroulera du 1er au 9 juillet dans la station thermale tchèque. C'est ce qu'ont annoncé mardi les organisateurs. Le festival, l'un des 11 grands festivals de compétition reconnus par la Fédération internationale des associations de producteurs de films, présentera un total de 230 films du monde entier. C'est ce qu'a affirmé la directrice artistique du festival, Eva Zahorolova. Il y aura au moins un joueur tchèque en finale de la Ligue des Champions cette année. Quelle que soit l'équipe anglaise, Liverpool ou Chelsea qui passera le cap des demi-finales, la République tchèque aura au moins un représentant pour disputer la plus prestigieuse des compétitions de clubs européens. L'impressionnant gardien de Chelsea ou les deux attaquants de Liverpool, Milan Baroš et Vladimir Schmitzer, auront pour tâche de faire oublier la déception de Pavel Nedved la saison dernière, privé de finale avec son club de la Juventus à cause d'un carton jaune de trop. Et on termine ce bulletin avec la météo. De la grêle est tombée sur Prague mercredi en fin d'après-midi. Dans la journée de jeudi, fête des Vladislav en République tchèque, le ciel devrait se dégager et les averses ne devraient être que sporadiques. Tout de suite, la suite de notre programme.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour et merci d'être resté en notre compagnie. Nous entamerons ce journal avec de la politique et le proche avenir du nouveau gouvernement qui reste au cœur de l'actualité. Politique toujours, l'extrême droite tchèque a présenté son programme en vue des prochaines élections législatives. Nous nous sommes entretenus avec son leader qui nous a livré le fond de ses pensées pour le moins choquantes. Société, nous évoquerons l'obésité chez les Tchèques, phénomène toujours plus préoccupant. Culture, l'auteur de romans de science-fiction, Josef Nesfadba, est décédé mardi. Nous terminerons ce quart d'heure d'information avec une bonne nouvelle quand même, puisque l'épopée slave, œuvre gigantesque d'Alphonse Mucha, pourra bientôt être admirée à Prague. Toute l'équipe de la rédaction française vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Le nouveau gouvernement tchèque a certes été nommé, mais il semble que la crise ne soit pas entièrement résolue. Plus de détails avec Alain Slivinski.
Le président de la République, Václav Klaus, a nommé le nouveau gouvernement tchèque ce lundi. Il est un an avec quelques corrections et est conduit par un nouveau Premier ministre. Pour pouvoir commencer à accomplir ses devoirs, le cabinet doit encore engager sa responsabilité lors du vote de confiance à la Chambre des députés. Et là, il semble que le bât pourrait blesser. En effet, certains députés de la social-démocratie voient d'un très mauvais œil le fait que Cyril Svoboda, un chrétien démocrate, soit resté ministre des Affaires étrangères. Jan Kavan, lui-même ancien ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres députés de ce qu'on considère comme la gauche de la social-démocratie, voudraient que cette dernière possède plus d'influence sur la diplomatie tchèque. Ils tentent de conditionner leur oui au cabinet par des changements dans le personnel du ministère, par exemple. Le vote de confiance devrait avoir lieu rapidement, d'après les affirmations du Premier ministre Jiří Paroubek. Et il est indispensable que la coalition gouvernementale soit unie, car elle ne possède la majorité que d'une seule voix à la Chambre des députés. De son côté, le président de la République, Václav Klaus, s'est montré quelque peu irrité par l'apparition d'une certaine discordance au sein de la social-démocratie en déclarant: je crois que nous ne pouvons qu'attendre, je ne voudrais pas proférer des menaces, mais j'ai déjà employé le chiffre 3 et je crois qu'il est toujours valable. Je suis persuadé que le fait qu'une formation politique ait bénéficié 3 fois de suite de la possibilité de former un gouvernement au cours d'un seul mandat électoral est vraiment le maximum possible. Confiance au cabinet de Jiří Paroubek, accordé ou pas par les députés, les observateurs se penchent déjà sur les chances de celui-ci dans la réalisation d'importantes réformes. D'après les économistes, il est peu probable que le gouvernement dépasse la phase des mesures populistes. La République tchèque se contentera probablement de s'en tenir à l'accomplissement de ses engagements envers l'Union européenne. Le Premier ministre ne le cache pas tellement, la priorité étant donnée à l'adoption du traité constitutionnel européen, alors que les réformes, retraite, santé, impôts et autres, ne devraient rester qu'à la phase de la préparation.
Un peu plus d'un an des élections législatives, l'extrême droite tchèque bat le rappel. 5 petits partis, dont les Républicains de Miroslav Sladek, disciple avoué de Jean-Marie Le Pen, ont décidé de rassembler leurs forces sous la bannière commune de Narodní strana, le Front national tchèque. Leur objectif, réintégrer les bancs du Parlement dont ils sont absents depuis 1998. Mardi, à l'occasion d'une conférence de presse, leur leader, Miroslav Sladek, nous a présenté les priorités de leur programme.
Nous sommes le mouvement national, comme en France c'est le Front national en tête avec Monsieur Jean-Marie Le Pen. Nous sommes la combinaison de 5 partis politiques. Nos objectifs sont principalement le même comme sont les objectifs dans la France du Front national. Par exemple, la République tchèque est seulement pour les Tchèques. Nous refusons les immigrants. Nous voulons de nouveau la peine de mort en Tchéquie pour les criminels.
La République tchèque a intégré l'Union européenne. La liberté de mouvement entre pays, au moins pour les citoyens européens, est désormais tout à fait possible. Est-ce quelque chose qui vous gêne?
Naturellement, l'Europe entière est pour les Européens. Non, pour les immigrants de l'Asie, d'Afrique.
Que pensez-vous de l'intégration de la République tchèque à cette union des peuples?
Nous voulons refuser l'Union européenne.
Comment définiriez-vous le citoyen tchèque? Vous parlez de peuple, de nation tchèque. Ce sont des valeurs auxquelles vous êtes très, très attaché. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a le droit de dire qu'il est citoyen tchèque?
Le Tchèque est l'homme qui est né en Tchéquie, des Tchèques. Ou s'il a seulement un parent tchèque, c'est tchèque, naturellement.
Lors de votre conférence de presse, vous avez également évoqué les Roms. On sait que c'est un sujet délicat en République tchèque et un peu en Europe centrale. Sont-ils des Tchèques?
Les Roms, les gitans, c'est la question qui est très intéressante pour les journalistes. Tous les journalistes, tous les Américains, tous les Français, tous les Allemands, tous luttent pour les droits des gitans. Mais personne ne voulait les gitans dans leur pays.
Donc, quelle solution proposez-vous à ce fait que personne, selon vous, ne veut de ces gitans?
Les gitans pouvons voyager libérément dans tout le monde, sauf la République tchèque.
Pour votre campagne électorale, comptez-vous sur le soutien du Front national français et de M. Jean-Marie Le Pen? On sait que vous êtes très proche.
Naturellement, nous comptons avec l'élite du Front national et Le printemps prochain, nous comptons avec la visite de M. Jean-Marie Le Pen en Tchéquie.
Alors que 300 millions de personnes dans le monde sont touchées par ce fléau de la modernité qu'est l'obésité, le paradoxe de cet état de fait met pour le moins mal à l'aise, quand on sait que ce chiffre rattrape à la vitesse grand V le nombre de personnes qui souffrent de la faim. C'est la maladie des pays riches et la République tchèque ne fait pas exception à la règle. Anna Kubichta.
Les derniers chiffres en date pour la République tchèque sont anciens et font état de 22,6% d'hommes et de 25,6% de femmes qui souffriraient d'obésité selon des données de 1997. Mais la société de recherche sur l'obésité table aujourd'hui sur respectivement 28 et 29%. Quant au problème de surpoids, il toucherait jusqu'à 47% des hommes et 31,3% des femmes. Vie sédentaire, stress de la société contemporaine, influence de la publicité, d'un marketing qui appâte à tous les coins de rue et des écrans, dans une logique du toujours plus, ou encore changement des habitudes alimentaires avec une société du fast-food omniprésente, tels sont les constats désormais habituels et accablants faits par les spécialistes. L'obésité des adultes, longtemps sujet tabou et plus considérée comme une faute des personnes que comme une maladie, s'accompagne aujourd'hui d'un phénomène plus récent et croissant, l'obésité des enfants. Pour le moins alarmant, les résultats d'une enquête menée en l'an 2000, en République tchèque, sur 200 enfants choisis au hasard dans des écoles. 6% de garçons et 7% de filles obèses parmi les enfants de 7 à 11 ans, et 8% de plus d'enfants en surpoids en à peine 10 ans. Voilà qui devrait inciter à la réflexion les pouvoirs publics sur les actions concrètes à mener, mais aussi les parents sur les comportements alimentaires de leur tête blonde. Et les spécialistes du sujet de renchérir. Si rien n'est fait aujourd'hui, les Tchèques vont à l'avant de graves problèmes de santé, puisque le surpoids et l'obésité augmentent sensiblement les risques de diabète, d'hypertension ou d'accidents cardiovasculaires. L'an dernier, sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, un Conseil national sur l'obésité a vu le jour en République tchèque, sous l'égide du ministère de la Santé. Ce conseil souhaiterait un engagement réel et actif des médecins généralistes qui ont une chance de diagnostiquer à temps le problème de surpoids, de mettre en œuvre une prévention efficace, d'encourager les patients à réagir et de soigner l'obésité. Une stratégie encouragée par les spécialistes, mais qui devrait être la logique, sinon humaniste, à tout le moins pragmatique, des pouvoirs publics en République tchèque et de par le monde, puisque la prévention revient nettement moins cher que la prise en charge des soins médicaux. Reste à savoir si ces considérations diététiques ne rentrent pas en contradiction avec des intérêts économiques. Difficile d'imaginer à l'heure actuelle que les propositions des spécialistes pour une réglementation plus stricte de la publicité et une promotion d'aliments sains aient une chance de franchir la barrière de ceux-ci.
Aujourd'hui, plus personne ne lit la science-fiction. Tout le monde lit le genre fantasy, disait Joseph Nesfatba, écrivain qui a consacré pourtant à la science-fiction une grande partie de sa carrière littéraire. Joseph Nesfatba nous a quittés dans la matinée de mardi à l'âge de 78 ans. Une information préparée par Václav Richter et lue par Alena Gebertova.
C'est dans les années 50 et 60 qu'il s'est imposé dans la littérature tchèque avec une série de romans et de contes qui ont démontré l'originalité de son talent. C'est à cette période-là que Josef Nesfatba a écrit ses plus grands succès, des recueils de contes fantastiques, La mort de Tarzan, Le cerveau d'Einstein et Les expéditions dans le sens inverse. Les cinéastes se sont rués sur cette production et plusieurs livres de Josef Nesfatba ont été portés à l'écran. Ces livres ont marqué toute une génération d'auteurs de science-fiction tchèque. L'écrivain Ondřej Neff a subi lui aussi l'influence de cet auteur qui ne manquait pas d'idées originales.
Il a renoué avec la création littéraire de Karel Čapek et de Jan Weiss, avec leur littérature fantastique aux aspects humanistes et philosophiques. On ne doit pas oublier que c'était un grand connaisseur de la mentalité humaine. Il était psychiatre et fondateur de la psychothérapie de groupe. Il aidait donc des gens concrets dans des situations concrètes. Ce n'était donc pas un écrivain coupé de la réalité et planant sur les eaux.
Oui, Joseph Nesfatba était l'homme de deux professions. Psychiatre, il était spécialiste des névroses, s'interrogeait sur l'utilisation de la parole dans la psychothérapie et pratiquait une forme d'art-thérapie. Il se posait évidemment aussi de nombreuses questions sur l'homme, sur la civilisation, sur les défis et les dangers de notre temps. En 1964, il a publié le roman non fantastique « Le dialogue avec le docteur Dongo », dans lequel il a abordé le dialogue entre les civilisations et la confrontation des cultures. Il était sensible aussi au problème de la globalisation. Dans les années 90, il a dit dans un entretien accordé à Radio Prague.
Obávám se člověk jako všude, a to je na západní Evropě zrovna tak.
Ici, mais aussi en Europe de l'Ouest, on craint la transformation trop rapide du monde, ce que j'appellerais l'universalisation du monde. Je ne sais pas cependant si cette crainte n'est due qu'au fait que je sois parvenu à un âge avancé. Les différences intéressantes entre les gens et entre les peuples se confondent et s'effacent très rapidement. Cela nous surprend parce que nous sentons que notre monde s'en va, notre monde qui était plein de choses intéressantes, mais dans lequel il y avait aussi beaucoup de difficultés et de problèmes. L'épopée slave, le fameux cycle de toiles monumentales d'Alphonse Mucha, devrait être exposé à partir de l'année 2006 à Prague dans un pavillon construit spécialement pour cette œuvre sans égale. Une décision de la municipalité de Prague qui met fin à l'interminable feuilleton de polémiques et de discordes autour de son exposition. Explication avec Magdalena Segartova.
C'est au parc des expositions dans le quartier pragois de Holešovice, à proximité de l'école des Beaux-Arts, du lapidarium du musée national, ou encore d'un bâtiment abritant l'immense peinture virtuelle de Ludek Marolt, décrivant l'une des batailles décisives des guerres hussites, que sera édifié ce pavillon Alphonse Mucha. On y placera donc son épopée slave, une série de 20 tableaux de grandes dimensions, hauts de 8 mètres, dont les sujets se rapportent au moment important de l'histoire des Slaves. L'œuvre tenait beaucoup à cœur à Mucha. Il lui avait consacré 18 ans de travail et l'avait offerte en 1928 à la ville de Prague à l'occasion du 10e anniversaire de la naissance de l'État tchécoslovaque. Dès lors, les peintures voyagent, faute d'espace convenable où elles pourraient être exposées. Cachée pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'épopée slave a été enfin placée au château de Moravski Krumlov qui nécessite actuellement une rénovation. Pendant 15 ans, depuis la révolution de velours, la municipalité de Prague a cherché un moyen de présenter l'épopée aux Pragois sous forme d'une exposition permanente, histoire d'en faire en même temps un nouvel attrait touristique de la capitale. La décision est tombée mardi dernier. Le pavillon qui abritera le cycle slave de Mucha devrait être inauguré fin 2006. Ce sera une construction en acier, hors du commun, affirment les architectes, ressemblant à une boîte d'allumettes. Le coût du projet a grimpé de 100 millions de couronnes, prévu initialement à 150 millions, environ 5 millions d'euros. Une somme qui ne fera pourtant pas un trou dans le budget de la capitale, car la construction du prestigieux pavillon Mucha intéresse bon nombre d'investisseurs tchèques et étrangers.
C'est sur cette bonne nouvelle que prennent fin ces faits événements. Merci de votre attention. Restez en notre compagnie. Tout de suite, place à l'histoire.
Chapitre de l'histoire tchèque. David Allon.
Dans le cadre de la commémoration des 60 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous revenons aujourd'hui sur l'un des pans les plus sombres de l'histoire tchèque, la collaboration et l'occupation. Sujet tabou, le thème appelle, en République tchèque, des réactions moins passionnées qu'en France. Dans leur statut de pays occupé, les deux pays ont cependant recouvert certaines similitudes. En mars 1939, est institué le protectorat de Bohême-Moravie. Dès septembre, sont promulgués les décrets antisémites, plaçant les Juifs hors de la communauté nationale. La Bohême vit désormais à l'heure allemande. Au lendemain de la défaite française, en 1940, le président Acha, qui a remplacé Benesch après son exil à Londres en octobre 1938, félicite le Führer et dénonce Benesch comme ennemi numéro un du peuple tchèque. Il dissout le Parlement et forme un gouvernement d'union nationale composé de fascistes, d'agrariens et de sociaux-démocrates. Si les nazis mettent en avant les classes dirigeantes traditionnelles, ils considèrent cette situation comme temporaire. Le pays est en effet destiné à moyen terme à être incorporé dans le Reich. D'où une double politique. D'un côté, une répression solide et une mise en demeure effective du gouvernement tchèque, plus précoce que dans la France de Vichy. Ici, Pétain maintient tant bien que mal l'illusion d'une France souveraine. Ce n'est qu'à partir de 1943, quand la guerre paraît perdue pour l'Allemagne, que celle-ci met en avant des formations proprement fascistes. En Bohême, en revanche, dès mars 1939, avaient été effectuées environ 18 000 arrestations préventives par la Gestapo. Sur la demande de von Neurath, placé à la tête du protectorat, le gouvernement sera bien vite remodelé au profit des collaborationnistes. D'un autre côté, on assiste à un relatif ménagement allemand, en regard de la Pologne voisine, dû au potentiel industriel de la Bohême, essentiel à l'effort de guerre nazie. Comme en France et dans les autres pays occidentaux occupés, les nazis ont tout intérêt à ne pas se séparer des cercles dirigeants traditionnels. Question de légitimité. Ainsi, en France, autour du maréchal Pétain, grand vainqueur de Verdun, on retrouve un certain nombre d'anciens députés de la Troisième République, dont en premier lieu Laval. En Bohême, l'acceptation provisoire, on l'a vu, du gouvernement d'union nationale autour du général Eliash obéit à la même logique. On ne peut s'empêcher cependant de remarquer une différence de taille quant à la collaboration d'États au plus haut niveau. Certes, les deux pays pratiquent une politique de collaboration plus subie que souhaitée et agissent au nom du moindre mal. Le maréchal Pétain, pourtant, s'engage résolument dans l'Europe allemande, au sein de laquelle la France doit obtenir la meilleure place possible. Le général Eliash, lui, semble se placer d'emblée dans une perspective différente. Sous couvert de soumission, il maintient le contact avec Benesch à Londres. À la fin de 1941, la Gestapo voit d'ailleurs clair dans le jeu d'Eliash. Arrêté en septembre, il est exécuté en juin 1942. Reinhard Heydrich, qui remplace von Neurath à la tête du protectorat, proclame la loi martiale et traduit Eliash devant les tribunaux. En octobre, 200 autres Tchèques sont passés par les armes et environ 400 avant la fin novembre. Les cercles collaborationnistes, partisans actifs de l'intégration au Reich, ne se recrutent pas vraiment, quant à eux, dans les cercles dirigeants traditionnels de la République massaricaine. À la faveur de l'heure allemande, une partie de l'ancienne noblesse de Bohême sent souffler le retour possible de son influence d'antan. Les Lobkowitz ou encore le prince Franz Schwarzenberg en font partie. Dans l'Europe occupée, les nazis mettent en place différents statuts administratifs. Il y a les pays neutres, comme l'Espagne, les pays satellites de l'Allemagne, Roumanie et Finlande, entre autres, ou les pays à administration directe, Belgique et nord de la France. La Bohême-Moravie appartient au système dit du gouvernement de tutelle, avec la France ou encore le Danemark. Le terme de tutelle est bien approprié. Le gouvernement est privé de deux ministères essentiels à la souveraineté d'un pays, celui des affaires étrangères et celui de la défense. Le pouvoir réel appartient de toute façon au Reichsprotektor, qui peut révoquer les ministres et légiférer à sa guise. La Bohême constitue une exception en Europe centrale et orientale dans son statut de pays occupé. Car dans cette région, les nazis font peu intervenir les personnalités politiques nationales, à la différence des pays occidentaux. Les pays tchèques s'apparentent à ce dernier groupe, plus ou moins ménagé en raison de la manne industrielle qu'ils représentent pour l'effort de guerre. À ce titre, le protectorat est surtout invité et incité à produire. C'est la raison pour laquelle les pays tchèques échappent au sort de leurs voisins, traditionnellement agricoles et voués au pillage systématique par les Allemands. Une chance, s'il en fut, dans cette période de ténèbres.
Le programme en langue française de Radio Prague Onde Courte se termine. Merci de votre attention. Vos rapports d'écoute, observations et suggestions seront les bienvenus.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia.